Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la belle et splendide fête de la Toussaint nous met sous les yeux la gloire des saints du ciel et nous rappelle ce que nous devons faire pour les rejoindre. L'Évangile cite à propos le discours sur la montagne et les béatitudes. Que sont les béatitudes? Ce sont les actes parfaits des vertus et des dons du Saint-Esprit. Et donc nous voyons que parler des béatitudes n'est pas étranger au cours des sermons sur la vertu et vient à propos redonner de la flamme à ce que nous disons sur la pratique des vertus. Il est très important qu'au fur et à mesure que nous étudions les vertus, nous gardions bien présent à l'esprit que nous cherchons la béatitude éternelle et il est possible que les vertus nous paraissent quelquefois un peu austères, difficiles. Ce serait une erreur, bien sûr, car il n'y a pas de plus grand bonheur que de faire le bien. Et les béatitudes viennent nous le rappeler. Saint Thomas d'Aquin pose la question: la pratique des conseils évangéliques est-elle pour tout le monde? Or, nous voyons bien que les béatitudes sont liées aux conseils évangéliques. Il s'agit là d'une perfection des vertus, une perfection des actes des vertus, une perfection des dons du Saint-Esprit. On pourrait être tenté de se dire, s'il s'agit d'une perfection, ce n'est pas obligatoire. Et saint Thomas, avec son élévation habituelle d'esprit et de foi, va distinguer la pratique effective des conseils évangéliques n'est pas pour tout le monde, à savoir que on peut, en usant des richesses d'ici-bas, se sauver. On peut, en usant des plaisirs d'ici-bas, se sauver. Évidemment, le salut est beaucoup plus facile à obtenir en s'étant totalement dépouillé des richesses, en s'abstenant complètement des plaisirs, et notamment des plaisirs de la chair, par la chasteté, la virginité. Alors, les conseils sont-ils pour tout le monde? Saint Thomas répond, en esprit, oui. C'est-à-dire que si tout le monde n'est pas dans la nécessité de pratiquer une pauvreté absolue pour se sauver, puisque, comme je vous l'ai dit, on peut se sauver en possédant des richesses, si personne n'est dans la nécessité absolue de la virginité pour se sauver, puisque on peut se sauver dans le mariage, heureusement, malgré tout, il y a nécessairement un esprit des conseils qui est nécessaire même à ceux qui vivent dans la richesse ou dans le mariage. Il n'est pas possible à des époux de ne pas aimer la chasteté. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, saint Paul leur rappelle que Dieu veut leur donner les mérites de la chasteté en plus des mérites de la fécondité. Et c'est pourquoi une certaine pratique de la chasteté est nécessaire dans le mariage. Et saint Paul le rappelle bien. La même chose pour la pauvreté. nul ne peut user des biens d'ici-bas s'il n'a pas au moins l'esprit de pauvreté, c'est-à-dire s'il n'était pas détaché des richesses dont il use. Il faut faire attention à ce propos que très facilement, lorsqu'on rappelle l'esprit de pauvreté, l'esprit de la vertu, l'esprit des conseils, on se justifierait, on pourrait facilement se justifier de ne pas avoir à les pratiquer de fait, en réalité. L'esprit suffirait. Méfions-nous de cela. Parce que celui qui se contente de l'esprit en disant que cela suffit bien est un médiocre. Et les médiocres sont dans la tiédeur et les tièdes ont énormément de mal à se sauver. L'esprit de pauvreté dans la richesse est bien plus difficile que la pauvreté elle-même. L'esprit de chasteté dans le mariage est bien plus difficile que la virginité elle-même. Il faut user de ce monde comme n'en usant pas, dit saint Paul, et c'est évidemment plus difficile que de ne pas en user du tout. Donc, mes bien chers frères, ne nous contentons pas de l'esprit en nous disant que la pratique effective n'est pas nécessaire. Mais au contraire, cherchons la pratique effective. Et lorsque la providence divine nous montre, pour diverses raisons, qu'il nous demande d'user des richesses ou des plaisirs d'ici-bas, alors faisons bien attention de redoubler dans l'esprit, de manière à ce que nous ne régressions pas et que nous ne mettions pas notre âme en danger. L'esprit de pauvreté doit être un stimulant. L'esprit de chasteté, l'esprit des conseils doit être un stimulant et non pas un prétexte pour la médiocrité. Arrivons-en aux béatitudes elles-mêmes. Bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Nous avons tendance à penser malheureux les pauvres, mais il y a une compensation, à savoir qu'ils auront plus tard le royaume des cieux. Ce n'est absolument pas ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit « Bienheureux les pauvres ». Il donne une raison, à savoir que le royaume des cieux est à eux, mais il ne dit pas « Malheureux les pauvres, vous serez malgré tout récompensés ». Il dit « Bienheureux les pauvres ». Il y a un bonheur dans la pauvreté. Comme il y a un bonheur pour un cavalier à dominer un cheval. Bien sûr, le cavalier se donne du mal, il n'est pas facile de dominer le cheval. Mais est-ce que lorsque le cavalier domine le cheval et qu'il court avec lui, le cavalier nécessairement est heureux. On peut dire qu'il y a un bonheur à dominer les richesses. Il y a une joie à être au-dessus des richesses. Vous allez me dire que mon exemple tombe à faux, puisque justement, le cavalier possède un cheval et que le fantassin n'en a pas. Et si je vous dis qu'il y a un bonheur à pratiquer la pauvreté, cela voudrait dire qu'il y a un bonheur à ne pas avoir de cheval. Il y a effectivement un bonheur à ne pas être tributaire du cheval. Il suffit de voir combien d'hommes aujourd'hui, pour fuir la vie moderne, même sans visée surnaturelle, partent en randonnée dans la montagne, à la campagne. et ils ont un bonheur à pouvoir se passer des choses d'ici-bas. Ils ont un bonheur dans cette pauvreté. Si cela est vrai au niveau naturel, à combien plus forte raison cela sera-t-il vrai au niveau surnaturel ? Et une deuxième considération, il est évident que puisqu'il y a un lien entre la première partie de la béatitude et sa récompense, ce lien est un lien intrinsèque et non pas, comme je vous le disais, une compensation. Il y a un lien interne. Et la possession du royaume des cieux éclaire la pauvreté. Comme la pauvreté est un début de possession du royaume des cieux. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il y a une certaine possession du royaume des cieux ici-bas dans la pauvreté. Et cette pauvreté, on le voit chez les moines, cette pauvreté est éclairée par le royaume des cieux. Et bien entendu, la perfection de la possession du royaume des cieux sera dans l'au-delà à ceux qui ont pratiqué la pauvreté. Parce qu'ils auront dominé les choses d'ici-bas, ils ne se seront pas englués dans les choses d'ici-bas. Mais comme je vous le disais, il y a une joie à les dominer, il y a une joie à s'en priver, et cette joie n'est pas que dans l'attente d'une récompense future, elle est un peu dans cela, mais elle n'est pas que dans l'attente d'une récompense future, parce qu'il y a déjà une récompense intrinsèque à la pauvreté, et il y a déjà une certaine possession du royaume des cieux chez ceux qui pratiquent la pauvreté ici-bas. Bienheureux les doux, ils posséderont la terre. C'est la même chose. Il y a une perfection dans la douceur. Cette fois-ci, il est difficile d'hésiter à ce sujet. Bien sûr, les hommes de ce monde méprisent les doux. Mais les véritables doux savent qu'ils possèdent un trésor. Et ils savent que ce trésor donne la possession de la terre, c'est-à-dire la fait dominer. Les doux sont plus forts sur la terre que les violents. Il y a une joie à pratiquer la douceur. Et bien entendu, la récompense sera une récompense éternelle. Ils posséderont la terre, c'est-à-dire le royaume des cieux, c'est-à-dire qu'ils seront au-dessus de la terre, mais c'est-à-dire également que régnant avec Jésus-Christ, ils domineront la terre avec Jésus-Christ, le Christ roi. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Là, on pourrait dire qu'il sera difficile de trouver un plaisir dans les pleurs. Eh bien non, je ne crois pas. Il y a des pleurs qui naissent d'un grand amour de Dieu, des choses supérieures, de la vertu, etc. On aime la vertu, on veut la posséder. Et le simple fait de pleurer, notamment de pleurer nos péchés, mais pas seulement, de pleurer de ne pas posséder Dieu, nous met déjà en possession de Dieu. Il est évident que celui qui pleure n'est pas dans la joie de ce monde. Il est dans la joie de Dieu. Aux yeux du monde, il pleure. Aux yeux des anges, il est riche. Les anges l'encouragent. Et parce que les anges l'encouragent, parce que les saints l'encouragent, parce que Jésus-Christ lui-même, dans cette prédication des béatitudes, l'encourage, il est déjà heureux. C'est beau, lui disent les anges, les saints, Jésus-Christ, c'est beau ce que tu fais à pleurer tes péchés, c'est encore plus beau ce que tu fais à pleurer de ne pas aimer Dieu comme tu voudrais l'aimer. C'est beau ce que tu fais de pleurer à vouloir toujours être plus dans l'amour de Dieu. C'est déjà une perfection. Courage, continue, persévère. Effectivement, il y a déjà une consolation ici-bas, il y aura une consolation plus tard. Il y a déjà une beauté dans le fait de pleurer et il y aura une récompense à la mesure de cette perfection des pleurs. Là encore, la récompense éclaire la première partie de la béatitude. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Plus on progresse dans la béatitude, et plus la première partie de la béatitude devient riche, plus elle devient belle. Cette faim et soif de la justice est déjà un amour de la justice. Cette faim et soif de la justice est déjà belle en elle-même. Quiconque travaille à la justice fait plus qu'un cavalier qui domine un cheval. C'est vraiment un enthousiasme qui est en lui, un enthousiasme qui est déjà une joie, un enthousiasme qui est une perfection. Ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas simplement de s'écarter du péché. Et il y a une perfection, puisque les béatitudes sont la perfection des vertus et des dons. Et donc il y a une joie. Et cette joie sera récompensée par la pleine possession de ce qu'on désire. Si la récompense sera d'être rassasié, cela veut dire qu'on est déjà en possession, puisque rassasié, cela veut dire être comblé, il ne manque plus rien. Mais cela suppose qu'il y a déjà quelque chose avant. Et donc ceux qui ont faim et soif de la justice possèdent déjà la justice. Et la justice, c'est la sainteté. Et la justice, c'est la loi de Dieu. Et la justice, c'est l'amour de la vertu. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur la vertu de justice, qui est une vertu générale. Ceux qui possèdent la justice entraînent avec la justice toutes les vertus dans le sillage de leur service de Dieu. Bienheureux les miséricordieux, on arrive là vraiment à des béatitudes splendides. Évidemment, les gens du monde vont dire quel est l'intérêt de se pencher sur la misère, car la miséricorde, c'est le fait d'avoir un cœur, corps, cordis, qui se penche sur la misère. Les gens du monde vont dire, mais se pencher sur la misère, c'est de la misère. Et nous savons que nous pencher sur la misère, c'est au contraire une des choses les plus louables qui soit. La récompense de la miséricorde, c'est que cette miséricorde nous sera donnée en abondance, et nous obtiendrons nous-mêmes miséricorde. Vraiment, je vous incite, mes bien chers frères, à développer chez vous, chez vos enfants, dans vos familles, cette vertu de miséricorde. Elle contient d'une certaine manière en elle-même la pauvreté, parce que justement on utilise les biens à des choses qui en valent la peine. Elle contient la douceur, car le miséricordieux est quelqu'un qui calme les passions, parce qu'en lui-même les passions sont déjà calmées, et il répand la douceur. Le miséricordieux pleure avec ceux qui pleurent, il éclaire leurs pleurs, il leur apprend à porter leur croix à la suite de Jésus-Christ, il leur montre la beauté de la croix, il leur montre la beauté de la souffrance avec Jésus-Christ. Le miséricordieux éclaire les pleurs de ceux qui pleurent. Il ne fait pas nécessairement cesser les pleurs, il les éclaire. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils contiennent en eux la faim et la soif de la justice. Ils se penchent sur la misère pour donner la justice, pour donner la sainteté, pour donner tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait. Et c'est pourquoi ils recevront miséricorde. Il y a dans cette béatitude de la miséricorde une splendeur, mes bien chers frères, qu'il faut que vous partagiez tous. Il y a la miséricorde corporelle, la miséricorde spirituelle, les deux sont pour vous. Ne croyez pas que la miséricorde spirituelle soit réservée aux prêtres et que votre domaine soit seulement celui de la miséricorde corporelle. Vous avez des richesses de l'esprit que vous devez communiquer, que vous ne pouvez pas ne pas communiquer. C'est une question d'amitié avec Dieu. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Il y a évidemment dans la pureté une richesse, une joie extraordinaire. Bien sûr, les gens du monde vont regarder tout ce qu'ils perdent dans la pratique de la pureté. On entend des choses horribles. Si on avait su, on aurait profité de la vie. Vous, les jeunes, profitez de la vie, puisque vous en avez la possibilité. C'est affreux, ces choses-là. Il faut, au contraire, être enthousiasmé par la pratique de la pureté qui, en elle-même, le mot l'indique, est pur ce qui est saint. Et cette pratique de la pureté donne de voir Dieu. Là encore, la récompense est à la mesure de la première partie de la béatitude. Elle est à la mesure de la pratique de la béatitude. Il y a un lien entre les deux. Le cœur pur voit déjà Dieu et il le verra à la perfection. La pureté éclaire l'esprit. La pureté éclaire l'âme. Elle la rend non seulement lumineuse, mais capable de voir la lumière. Elle la rend transparent à la lumière de Dieu. Bienheureux les pacifiques, ils seront appelés fils de Dieu, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu mettre la paix dans ce monde. La paix de la croix, c'est vrai. Mais cette croix elle-même, parce que toutes les béatitudes éclairent la croix, elle nous montre que la croix n'est pas ce que nous croyons. Elle nous montre que la croix, c'est la pauvreté, c'est la douceur. Jésus-Christ est doux en croix. La croix, c'est les vrais pleurs qui donnent la consolation. La croix, c'est la faim et la soif de la justice de notre Seigneur qui veut réconcilier le monde avec Dieu, non pas à la manière des protestants et qui veulent une réconciliation extérieure sans changement intérieur de l'homme, mais une réconciliation profonde de l'homme qui, d'ennemi, redevient ami de Dieu. La croix, c'est la pureté. La croix, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde de Jésus-Christ. La justice et la miséricorde se sont rencontrées dans la croix. Alors que pour nous, nous pouvons croire que la justice et la miséricorde soient opposées l'une à l'autre, en tout cas difficilement compatibles. Dieu a envoyé son Fils et il a fait miséricorde, et son Fils sur la croix a fait justice. Et la justice et la miséricorde se sont rencontrées. Voilà ce qu'est le pacifique. Il transmet cela. Il est avec Jésus-Christ qui donne la paix, la vraie paix. Ne vous trompez pas sur la paix, mes bien chers frères. Il ne s'agit pas seulement de la paix des armes. Car notre Seigneur est venu mettre le glaive sur la terre. Alors ne cherchons pas une paix béate. Ne cherchons pas la paix qui nous détournerait justement des béatitudes. Si le bon Dieu veut que ce soit la guerre, c'est la guerre. Et pourtant, dans cette guerre, cela n'empêche pas le pacifique d'être en paix. Parce que justement, il possède la paix de Dieu, et parce qu'il possède la paix de Dieu, il rayonne la vraie paix qui est la seule capable de faire cesser la guerre des armes. Parce qu'il y a la paix de l'âme, et il y a la paix des corps. Et c'est la paix de l'âme qui rend possible la paix des armes. Monseigneur Lefebvre était un pacifique. Monseigneur Lefebvre, l'évêque de Fer, était un grand doux. Et d'ailleurs, les journalistes ne s'y trompaient pas sur la douceur de cet évêque de Fer. Bienheureux lorsque vous souffrirez persécution pour la justice. C'est la béatitude de la croix. Cette persécution pour la justice est en réalité une possession de la richesse de Dieu qui nous est jalousée par les mauvais. Lorsque nous subissons persécution pour la justice, nous continuons à porter témoignage et nous continuons malgré tout à illuminer ce monde. Les martyrs sont une semence de chrétiens parce qu'ils illuminent ce monde. Et les martyrs ont leur récompense dès ici-bas. Le royaume des cieux leur appartient. Il leur appartient dès ici-bas qu'ils ont comme un droit sur le royaume des cieux qui leur permet de le donner à autrui. Les martyrs On pouvait dire « prenez le royaume des cieux et le donnez à ceux qui voulaient en profiter ». On ne compte plus le nombre de bourreaux qui se sont convertis en voyant les martyrs. Et si ce ne sont pas les bourreaux qui se convertissent, ce sont de multiples païens qui se convertissent en voyant le martyr des chrétiens, en voyant la paix des martyrs, en voyant la joie des martyrs. Le martyr a un droit, il prend le royaume de Dieu parce qu'il a un droit sur Dieu d'une certaine manière. Et il le donne, et Dieu l'a voulu. De même que Dieu a voulu se donner, être à la disposition des hommes, tout Dieu qu'il est, être à la disposition des hommes, par les sacrements par exemple, qui nous donne un droit sur les grâces de Dieu, à condition d'être fidèles. De même, ces béatitudes nous donnent des droits sur le bon Dieu. De même, la persécution nous donne des droits sur le bon Dieu, des droits dont nous allons faire usage, non pas dans une sorte de gourmandise spirituelle, mais pour transmettre Dieu, pour le donner, pour le faire aimer. Et c'est une récompense extraordinaire que le martyr monte au ciel, suivi et quelquefois même environné d'une foule de païens qu'ils ont convertis. Oui, bienheureux serez-vous lorsqu'on vous maudira, qu'on vous persécutera, qu'on mentira à cause de moi. C'est le résumé de toutes les béatitudes. Alors votre récompense sera abondante. Elle est déjà abondante dans cette fidélité à Dieu. Elle le sera encore plus. Mais bien, cher frère, pratiquez les béatitudes. Ne vous dites pas « Je m'en tiens aux vertus, c'est déjà bien, cela suffit ». Ne dites pas « Je ne suis pas assez fort pour les béatitudes, moi je suis un tout petit qui se limite aux vertus ». Ce n'est pas vrai. Par le baptême, vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez été baptisé dans l'eau et dans l'Esprit. Vous avez reçu la confirmation qui vous donne l'abondance du Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit est toujours là où est Jésus-Christ. À chaque communion, vous recevez de nouveau le Saint-Esprit. À chaque confession, avec chaque absolution, vous recevez de nouveau le Saint-Esprit. Alors vivez dans le Saint-Esprit. Ne soyez pas des médiocres, car le médiocre qui néglige les béatitudes néglige la béatitude. Car le médiocre qui néglige la pratique des vertus et des dons néglige la récompense des vertus et des dons. Il ne mérite pas de l'avoir. Oui, il y a des tout-petits que Dieu ne mène peut-être pas très haut. C'est possible. Mais ne nous mettons pas dans cette catégorie-là. Parce que nous n'y sommes pas. Et de toute façon, il n'y a aucun petit, si petit soit-il, qui n'ait pas d'enthousiasme pour le royaume des cieux. Sinon, il ne serait pas chrétien. Sinon, il ne serait pas à la suite de Jésus-Christ. Même les petits ont de l'enthousiasme pour le royaume des cieux. À leur mesure peut-être, mais ils l'ont. Alors pratiquez les béatitudes, faites-les pratiquer aux enfants, faites-les pratiquer à ceux que vous côtoyez, à ceux avec lesquels vous vivez. Demandez à la Sainte Vierge, l'épouse du Saint-Esprit, la reine du royaume des cieux, de vous donner les béatitudes. Elle les a pratiquées, Dieu sait si elle a pratiqué la pauvreté, la douceur, Dieu sait si elle a pleuré, Dieu sait si elle a eu faim et soif de la justice, Dieu sait si elle a pratiqué la miséricorde en étant avec Jésus-Christ, son Fils, au pied de la croix, pour nous donner les richesses de la croix. Demandez à la Sainte Vierge, elle vous rendra pacifique, elle vous donnera cette richesse de la béatitude. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.